Bienvenue pour ce premier numéro d'En Spectateur, la nouvelle émission culturelle de Transistor. En Spectateur, c'est une idée simple, faire la promotion et la critique du spectacle vivant à Lyon. Pour cela, nous recevons les acteurs, au sens large, des spectacles, metteurs en scène, comédiens, musiciens, chorégraphes, pour qu'ils nous parlent de leur travail et vous donnent envie d'assister à leur représentation. Puis, accompagnés d'une petite bande de chroniqueurs, critiques, amateurs, nous allons voir cette pièce, et dans une autre émission, nous en faisons la critique, dans la bonne humeur, et sans avoir la prétention d'avoir un avis juste et parfait. Bref, une émission où nous agissons en spectateurs pour vous, auditeurs et futurs spectateurs des pièces que nous vous présentons. Pour cette émission, nous avons des partenaires, parmi lesquels, entre autres, l'Opéra de Lyon, le Théâtre de Vénissieux, le Théâtre des Célestins ou encore En Scène, l'association de théâtre, danse, musique et poésie de l'ENS qui organise en cette rentrée un festival audacieux, les Cités Muses, qui auront lieu du 18 au 26 septembre et que nous couvrons avec plaisir. Je vous propose donc cette semaine deux émissions spéciales, dont voici la première, pour vous présenter la programmation du festival des Cités Muses. Nous avons donc rencontré pour vous les troupes. Puis, vous l'avez compris, nous serons quelque part, avec vous je l'espère, dans la salle Cantor, pour voir les spectacles, et le mercredi 3 octobre, notez bien, vous pourrez écouter nos critiques. Mais pour l'instant, feuilletons ensemble la programmation des Cités Muses. Trois spectacles très différents à l'affiche, d'abord les Compagnons Butineurs, qui vous présenteront les mardis et mercredis 18 et 19 septembre, Cassandre. Ensuite, Identité, Pirandellisme et Tarahumara, joué par Louise Roux, seule en scène, le jeudi 20. Enfin, Les Âmes Rouges, de la compagnie La Folie nous suit, le lundi 24 septembre. Et surtout, au cœur des Cités Muses, à côté de ces trois spectacles, le triptyque autour de Don Juan, imaginé par Marceau Deschamps-Segura et joué les vendredis 21, samedi 22 et mercredi 26 septembre pour trois adaptations très différentes autour de Don Juan. Un programme riche, donc, pour la 7e édition des Cités Muses. Cités Muses, une belle programmation, mais un drôle de nom. Alors Corentin Roquebert, président d'En Scène, fait pour nous un peu d'analyse étymologique.
Donc Cités Muses, ça veut dire cinéma, théâtre, musique. Donc l'idée initiale du festival, c'est de promouvoir la jeune création, que ce soit les anciens de l'école qui viennent monter des spectacles une fois qu'ils sont passés pro, ou même des jeunes compagnies, que ce soit de Lyon ou d'ailleurs, qui viennent présenter leurs spectacles. Voilà, en comparaison de nos autres spectacles de l'année, qui sont plus des spectacles d'élèves de l'école. Donc là, l'idée, c'est d'assurer un lien entre une partie en scène lié plus à un campus, à essayer de s'ouvrir et même essayer de s'ouvrir en termes de spectateurs. Et en tout, ça doit faire quelque chose comme 1500, entre 1000 et 1500 spectateurs, je dirais.
Les Cités Muses version 2012 commence bientôt, l'occasion de revenir avec Lambert de Warumé et Corentin Roquebert d'En Scène sur les éditions précédentes et de tirer le bilan de celle-ci.
L'année dernière déjà, il y avait eu l'idée de consacrer deux spectacles pour chaque section, donc deux spectacles de danse, deux spectacles théâtre, deux spectacles musique. Et ça, c'est une idée qu'on n'a pas gardée, parce que ça a fixé des contraintes qui étaient peut-être un peu rigides, et on a décidé de plus marcher au coup de cœur cette année, et d'avoir des spectacles assez hybrides. Finalement, on n'a pas de spectacle de danse pur, mais on a beaucoup d'éléments chorégraphiques dans les spectacles de théâtre qu'on a choisis.
Il y a un autre truc qui me tenait vachement à cœur aussi par rapport au Cités Muses, c'est le fait d'accueillir les artistes avant en résidence. Et donc là, donc les Compagnons Butineurs et le spectacle Identité, Pirandellisme et Tarahumaras ont fait une semaine de résidence chacun au Théâtre Cantor cet été. Et donc je pense que c'est vraiment bien de faire un lien comme ça avec la salle et comme ça elles peuvent monter vraiment leur projet pendant une semaine et pas juste arriver la veille, monter le spectacle et après repartir une fois que c'est fini, et puis on les a vues 3 heures en tout, et donc là je pense que c'est bien d'avoir vraiment pu créer un lien avec les artistes par ce biais là parce qu'en plus c'est vraiment un échange de services où on leur offre ça, et nous ça nous fait une programmation vraiment intéressante, quoi.
Place au coup de cœur donc pour cette 7e édition dont Laurent de Warumé nous donne la cohérence.
Il a apparu une cohérence que j'ai définie autour du mythe et du conte qu'on va avoir sur les... On a beaucoup de théâtre cette année sur les Cités Muses. Et donc sur les 4 spectacles qu'on a, on a voilà, cette thématique autour du conte qui va débuter avec Cassandre. On va se balader aussi à travers des mythes plus récents comme celui de Don Juan qui va traverser toutes les Cités Muses. On a la question du masque des Tarahumaras et puis on a le petit chaperon rouge revisité par La Folie nous suit dans Les Âmes Rouges.
Mythe, conte et théâtre à l'honneur donc pour les Cités Muses à venir. Mais comment établit-on cette cohérence artistique? Comment organise-t-on un tel événement? Magnifique barnum pour l'association En Scène, juste à la rentrée 2012. Corentin Roquebert répond à ces questions.
Alors, il faut s'y prendre bien en amont, parce que si on attend, forcément, si on attend début septembre, avec les gens qui sont encore en vacances, qui sont plus là parce que dans l'association, parce qu'ils sont partis faire des études ailleurs, etc. Donc, nous, on a commencé à réfléchir vers mars, avril, au spectacle. Donc, on est allé en voir, voilà, après, en fonction des gens qu'on connaît, etc. On a fixé la programmation vers mai, à peu près. Et donc, à partir de là, on commence à réfléchir à une com, etc. Et à la programmation plus jour par jour, chercher une cohérence, etc.
Regardons maintenant dans le détail la programmation des Cités Muses. Mercredi 18 et jeudi 19 septembre, première date du festival et première pièce, Cassandre, jouée par les Compagnons Butineurs. Nous avons rencontré l'administratrice de la troupe et la metteuse en scène du spectacle, interview. Je reçois Marie Maucor et Gilles Pan pour évoquer la pièce Cassandre des Compagnons Butineurs qui sera jouée les mardis 18 et mercredi 19 septembre en Théâtre Cantor dans le cadre des Cités Muses. Alors bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation dans Spectateur pour présenter votre spectacle. Alors votre spectacle, Cassandre, que vous nous présentez dans le cadre de ce festival, est une pièce bien rodée puisque vous l'avez créée en 2011. S'en est suivi une tournée en août 2011, notamment en Auvergne, et vous êtes allé au festival d'art de rue d'Aurillac. Au total, 26 représentations dans 14 villes différentes, puis des dates à Paris à partir de janvier 2012. Bref, une affaire rondement menée. Mais alors au départ, il s'agit d'un spectacle de rue, créé pour la rue, dans un format léger et nomade, qui se voulait en contraste avec un de vos précédents spectacles, On est tous mortels un jour ou l'autre, qui avait lui une certaine pesanteur technique et qui voulait explorer les liens entre le théâtre, la musique et le cinéma, si j'ai bien compris. Alors comment on adapte un tel spectacle qui se veut en rupture avec les scènes classiques qui est fait pour la rue, justement pour un théâtre plus classique comme le Théâtre Cantor dans lequel vous allez évoluer les 18 et 19? Comment on fait?
Eh bien, l'idée de base reste la même, c'est-à-dire que après On est tous mortels un jour ou l'autre, on voulait vraiment faire un spectacle qui pouvait jouer n'importe où et qui serait adaptable à toute situation. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. On a pu le jouer aussi bien sur des marchés, sur des places de marché, dans des rues. On a joué aussi dans un jardin d'un château. Enfin, on a pu comme ça l'adapter à tout type de lieu et de public. Pour cette recréation, puisque je pense qu'on peut parler de recréation là, pour les Cités Muses, on est resté sur quelque chose qui peut vraiment s'adapter à tout type de salle. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'aller vraiment dans la simplicité au niveau des effets, pour que le spectacle reste transportable n'importe où.
Vous passez d'un endroit à un espace, qui est donc un espace urbain, à un espace vraiment balisé. Alors, il n'y a pas de rideau dans la salle Cantor, mais on peut imaginer que vous allez jouer plus tard dans un espace où il y aura un rideau, il y a une estrade, il y a une scène. C'est la rue que vous mettez sur scène ?
Les deux espaces débordent entre eux, en fait. Les spectateurs débordent sur la scène, les comédiennes vont déborder sur le public, un peu comme ce dont on a pu faire l'expérience en rue. Dans la rue, déjà, rien qu'au niveau de la durée, il faut que ce soit assez court, assez frappant, percutant, pour que les gens s'arrêtent, et les gens ne vont pas s'arrêter une heure et demie.
C'était prévu pour 30 minutes au départ, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, 30 minutes, voilà. Or, déjà, quand on arrive dans une salle de spectacle, il faut déjà qu'on agrandisse le temps du spectacle. Et ça, on l'avait déjà travaillé, parce que ça nous intéressait d'aller jusqu'au bout de l'histoire de Cassandre. Dans la rue, on est obligé de s'arrêter au milieu de l'histoire, et déjà... agrandir la durée du spectacle nous permettait de faire des choses qu'on n'avait pas pu essayer.
D'où l'idée d'un travail véritable de recréation.
Oui.
Parce qu'il a fallu réécrire, certainement.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a la durée, déjà, qui est beaucoup plus longue. L'espace, donc voilà, on va s'adapter à une scène et à une salle de spectacle. Il y a la musicienne aussi qui a changé, parce que c'est plus la même personne qui le fait. C'est une création collective, donc la musicienne qui avait créé le spectacle a donné beaucoup d'elle-même. On peut pas plaquer un rôle sur la nouvelle musicienne. Donc la nouvelle musicienne, qui est une chanteuse lyrique en fait et qui joue aussi beaucoup d'instruments, va aussi donner. Enfin, elle a aussi donné d'elle-même dans le spectacle. Le spectacle a forcément une autre couleur. Mmh. Et oui, et il y a aussi des choses dans la première version qu'on voulait changer de nous-mêmes parce que.
Oui.
Parce que voilà, quand on joue un spectacle une trentaine de fois, et ben on se rend compte un peu des limites et on sait ce qu'on a envie de fabriquer.
Et il y a des strates qui se rajoutent au fur et à mesure. Là, en le recréant, par exemple, on s'est rendu compte qu'on a enlevé beaucoup des textes antiques qui nous avaient servi un peu d'appui au départ. Et on prend beaucoup plus de liberté de ce point de vue-là. Et je pense que c'est vraiment cette nouvelle strate qui arrive...
En tout cas, si c'est pas la rue véritablement que vous faites rentrer telle quelle dans le théâtre Cantor, on l'a bien compris, c'est la fille de Priam et d'Hécube, Cassandre, la princesse troyenne, que vous faites rentrer dans le théâtre Cantor. On connaît tous évidemment son destin, elle a reçu d'Apollon le don de prédire l'avenir, mais comme elle s'est refusée à lui, eh bien le dieu lui a craché dans la bouche, la maudissant à annoncer l'avenir sans être cru. Alors on connaît tous l'histoire, sauf que vous choisissez de placer la pièce un peu avant la malédiction, c'est-à-dire quand la princesse peut encore parler et être crue.
C'est vrai que le point de départ était l'idée que tout n'est pas encore joué et que Cassandre, qui est quand même cette jeune fille qui sait toutes les horreurs qui vont advenir, elle n'arrête pas d'essayer de les empêcher, alors qu'elle sait pertinemment que ça va se terminer comme ça. Et je crois que c'est ce paradoxe-là qui nous plaisait. C'est-à-dire qu'elle ne cesse de dire « arrêtez de faire ça, voilà ce qui va se passer, c'est atroce », et alors qu'elle pourrait tout aussi bien arrêter de parler. C'est pour ça qu'on a imaginé, et dans cette version de salle, c'est ce qu'on a vraiment accentué, que chacune des comédiennes, et même la musicienne, pour le coup, pour cette recréation, sont une Cassandre. Chacune a trouvé sa Cassandre et a répondu, en quelque sorte, à la question de pourquoi elle continue le combat et quels moyens elle a trouvé pour essayer de persuader, alors qu'elle sait très bien que c'est pas possible. Et donc chacune a suivi sa ligne, sa Cassandre, et évidemment ça fait des interférences.
On raconte Cassandre qui essaye de raconter son histoire, et donc elle raconte du début jusqu'à la fin, et elle essaye de la raconter et elle se trompe et elle voit bien qu'on la croit pas, alors elle recommence, elle reformule. Comme elles sont 5 Cassandres à raconter, ben, elles racontent pas toutes de la même façon, elles racontent pas toutes avec les mêmes moyens. Il y en a qui racontent avec peut-être plus avec le corps, peut-être plus avec la voix, peut-être plus avec la chanteuse avec ses instruments.
Et elles ne sont pas toutes au même niveau de la fiction. C'est-à-dire qu'on a une Cassandre qui est restée, en quelque sorte, dans la Troie antique, et puis une qui va être beaucoup plus militante aujourd'hui, on a essayé, sans que ce soit trop gros, d'arriver à questionner les figures de Cassandre aussi.
C'est donc une adaptation du personnage de Cassandre, avec tous les visages qu'on peut lui donner et toutes les interprétations qu'on peut faire d'elle.
Oui, c'est 5 Cassandres qui ont eu, en quelque sorte, pour projet de continuer à essayer de convaincre les gens de la croire parce qu'elle a raison et parce qu'elle sait ce qui va se passer.
Cassandre a quelque chose à dire, elle a toujours quelque chose à dire, le pire surtout, mais pour l'heure, Apollon ne lui a pas encore craché dans la bouche, elle sait que vous pouvez encore la croire, Alors elle va vous raconter l'histoire de sa vie à venir. Ça résume très bien ce que nous avons dit là très rapidement. C'est votre texte de présentation du spectacle. Et je pense que ça donne déjà ça envie. Moi, quand j'ai lu, en tout cas, ça m'a donné envie d'aller voir le spectacle. Alors j'espère que notre discussion aura donné aussi envie aux auditeurs d'aller le voir. Alors pour vous connaître un petit peu plus, quelques mots sur la compagnie maintenant. Les Compagnons du Tineur, alors dont l'origine a un écho forcément particulier puisque il est lié aux classes préparatoires et que vous allez jouer dans le théâtre de l'École Normale Supérieure. Alors si on remonte en arrière, 4 ans en arrière, on est en octobre 2008, on est au lycée Fénelon dans l'option théâtre et de la troupe actuelle, en fait, on a 11 hypocagneux. Alors qu'est-ce qui pousse 11 hypocagneux à essayer de s'éloigner des sentiers battus comme ça, du cursus hypocagne-cagne et à fonder une troupe?
Mais le problème, c'est qu'on n'a pas choisi entre les deux. On ne s'est pas éloigné du cursus hypocagne-cagne. On n'a pas...
Vous avez fait les deux en même temps, les deux.
On a tout fait en même temps. Et le pire, encore... c'est que ça a marché.
Oui, et puis on a quand même quelques normaliens et normaliennes dans la compagnie. Donc finalement...
Alors comment vous avez fait? Ça n'a pas été trop dur de concilier une charge de travail que forcément nos auditeurs connaissent et puis ce projet?
Le fait qu'on se soit rencontrés justement dans ces classes en ayant vraiment peu de temps à côté, ça a été le ciment de la cohésion du groupe et ce qui a fait que c'était une vraie respiration entre le travail qui nous permettait aussi de tenir de l'autre côté, quoi.
C'était une lutte acharnée contre le temps. Je sais pas comment on a fait. On a passé des week-ends et des week-ends et même juste avant le... juste avant les concours blancs, juste avant les concours, juste avant les oraux.
On avait une salle à disposition, on était tous au même endroit.
On avait tous envie de s'échapper un peu des livres et voilà.
Et je crois que le fait aussi qu'on était en classe préparatoire a fait qu'on a choisi ce nom Compagnon Butineur. On n'avait vraiment aucun moyen, pas de décor, on avait seulement la salle à notre disposition et puis nos affaires. Et donc l'idée de butineur, c'est vraiment cette idée de bricoleur, on fait avec ce qu'on a. Et c'était aussi l'idée que en prépa, on n'avait pas de cours de théâtre, de pratique, j'entends. Et chacune de nous et chacun de nous avait avec lui un petit bagage de pratique, de théâtre, de danse, de cirque, de musique. Et l'idée de l'abeille qui butine, c'était aussi qu'on arrivait chacune avec et chacun avec notre petit pollen.
Issu de toutes les petites fleurs.
Voilà, et qu'on le mettait en commun.
C'est d'ailleurs pour ça que vous appelez les compagnons et pas la compagnie des butineurs, c'est les compagnons butineurs parce qu'il y a vraiment cette idée de collectif et on le sent bien depuis tout à l'heure quand on parle, c'est vraiment, on met tout en commun.
D'ailleurs, toutes les créations, ou presque, sont des créations collectives en fait, même s'il y a toujours quelqu'un qui met en scène.
J'espère que cette bonne humeur et puis cette passion qu'on entend quand vous parlez de votre spectacle a donné envie à nos auditeurs de venir les 18 et 19 septembre en Contor dans le cadre des Cités Muses.
Oui, donc Cassandre, c'est un spectacle qui est mis en scène par Marie Mocor, et sur scène il y aura Adèle Gasquel et Flora Sauchier qui sont des élèves de l'ENS de Lyon, Héloïse Sauvion, Nouche Papazian, la musicienne Laura Muller.
Le texte du spectacle est un montage de textes à la fois donc d'Hector Ruiz qui est aussi à l'École Normale Supérieure et de textes antiques, donc on en a quand même gardé certains,
de Sénèque, Euripide,
Lycophron de Calcis, donc c'est pas un auteur antique, mais on a aussi gardé son poème. Et il y a aussi des textes des comédiennes.
Très bien. Merci beaucoup. On précise juste que toi, Gilles Pan, tu es donc l'administratrice.
Voilà.
Merci beaucoup. Après l'interview des acteurs du spectacle, place au off, aux coulisses. Corentin et Lambert d'Ancène nous éclairent sur le comment et le pourquoi du choix de la programmation des Cités Muses.
Il y a deux comédiennes qui sont à l'ENS actuellement.
Puis on a aussi une membre du bureau qui les a connues quand elle était en prépa à Paris. Et donc qui avait déjà le contact avec cette compagnie dont elle suivait déjà bien le travail. Et donc elle nous a fait part de son coup de cœur pour le travail de cette compagnie. Et donc on a...
Puis il y avait quelqu'un d'autre du bureau qui avait déjà vu le spectacle, qu'il avait déjà été monté il y a un an. Et qui nous a dit que c'était vraiment vachement bien, etc. Et comme elle cherchait à le rejouer, à le monter dans une version salle, et c'était vraiment, ça collait vraiment avec l'esprit des Cités Muses de professionnalisation aussi.
Voilà, jeune compagnie ambitieuse avec un beau spectacle à présenter.
Après Cassandre, place le jeudi 20 septembre à Identité, Pirandellisme et Tarahumara, dont Corentin et Lambert nous expliquent comment ils sont venus à programmer ce spectacle.
L'actrice principale et unique est une ancienne d'ici. Elle connaissait les cités muses, etc. Et du coup, elle, c'est elle qui m'a contacté pour savoir si c'était possible de jouer, etc. Alors du coup, à ce moment-là, elle jouait à Vincennes, donc on est allé la voir, etc. Et puis ça nous a vraiment plu.
Et puis le profil aussi correspondait parfaitement à ce que nous on cherche dans les cités muses, c'est-à-dire une ancienne d'enseigne qui aujourd'hui entre dans des cercles plus professionnels. Et donc nous, ça, pour nous, c'était vraiment l'occasion idéale de donner un bon coup de pouce voilà, à cette démarche-là.
Place maintenant à la metteuse en scène et à la comédienne d'Identité, Pirandellisme et Tarahumara qui, avant de répondre à mes questions, ont tenu, avec générosité, à vous offrir un avant-goût du spectacle, sorte de cadeau de bienvenue et d'invitation à venir voir leur pièce le jeudi 20 septembre.
Identité, Pirandellisme et Tarahumara. C'est le titre de la conférence... Une conférence sur l'identité, le pirandellisme, c'est-à-dire sur Luigi Pirandello, dramaturge du XXe siècle qui a révolutionné la mise en scène, et les Tarahumara, les Tarahumara étant un peuple de l'état du nord du Mexique, du Chihuahua en particulier, qu'Antonin Artaud est allé visiter.
Quand il était fou.
Au moment de crise existentielle.
De folie.
Alors, cette conférence interroge la notion de moi du point de vue du masque. Du masque social, du masque théâtral, du masque, et en même temps les différents états de conscience, les strates de conscience. Qu'est-ce que le subconscient, le sous-conscient, l'infraconscient, le déconscient, le susconscient,
c'est du rire.
Comme
du vide, du
voilà.
Bon, Lily, Lily les masques, Lily le son, Lily la voix, Lily parle, Lily, tu as perdu ta voix. Du vide.
Alors merci pour cet extrait, cette mise en bouche, on va dire, de votre spectacle plutôt, Identité, Pirandellisme et Tarahumara, qui sera donc joué au Théâtre Cantor dans le cadre des Cités Muses le jeudi 20 septembre. Alors c'est très généreux d'offrir à nos auditeurs déjà un cadeau comme ça, donc je vous en remercie et puis je vous présente dans la foulée. Donc Louise Roux, comédienne, bonjour.
Bonjour.
Vous serez seule en scène pour ce spectacle, et Ariane Pawin qui donc prêtait votre voix exceptionnellement pour ce petit extrait et qui êtes-vous à la mise en scène.
Bonjour. Oui, bonjour.
Alors je cite aussi le reste de l'équipe artistique, Hugo Kostreva au son qui joue un grand rôle, on en reparlera, Célia Chauvière pour la chorégraphie, Émilie Jouve pour la scénographie, Luigi Daria aux lumières et François Barouche qui a collaboré au projet. Alors, Identité, Pirandellisme et Tarahumara, Kezako. Alors, on en a eu un petit aperçu grâce à votre cadeau pour nos auditeurs. Au départ, je vous l'avoue, quand j'ai juste vu le titre, je me suis demandé si j'avais pas confondu les cités muses avec un cycle de conférences d'un séminaire de sociaux ou de psychos. Et en fait, j'étais pas forcément très loin, puisque le point de départ du spectacle, c'est donc une conférence, celle de Lily Boom, grande conférencière, qui vient ici traiter de la notion d'identité, argumentant son propos, d'extraits, d'encyclopédies, de pièces de théâtre, ou encore de textes critiques. Alors déjà, on a de quoi dérouter le spectateur, ils s'attendent pas forcément à voir cela quand ils rentrent dans un théâtre. Sauf que cette conférence, elle va pas être prononcée jusqu'au bout, à cause d'un masque, et pas n'importe quel masque. Alors on va déjà ouvrir une petite parenthèse dans le récit de cette pièce, parce que ce masque, c'est justement le masque qui est à l'origine du spectacle.
Ce masque, c'est un masque que j'ai trouvé au Guatemala, pas au Mexique, mais voilà, dans un voyage comme ça, et c'est un masque que j'ai trouvé que j'ai toujours tout de suite eu envie de jouer avec. C'est un masque de rituel, c'est pas un masque de théâtre classique, c'est un masque unique en bois, très particulier, et tellement particulier que j'ai pas réussi à l'intégrer dans d'autres créations, et c'est, je me suis dit, en fait, il faut faire un spectacle pour ce masque, pour qu'il puisse vivre, et c'est de cet objet-là que j'ai eu envie de travailler sur même la notion de masque et d'identité. Donc il est vraiment à l'origine du projet.
Alors on referme la parenthèse et on entr'ouvre le rideau rouge du théâtre qui hélas est absent de ce théâtre content dans lequel vous jouez. Donc c'est un diablo, c'est ça, un masque d'homme, amérindien, qui est donc sur le bureau de Lily Boom. Et là, tout se détraque.
On a envie de remettre un peu en question la rationalité, et le masque est là pour emmener ailleurs. Finalement, dans le théâtre, dans le visuel et dans le rapport au corps qui est absent du début, puisqu'on est dans un rapport de parole et intellectuel très, très fort.
C'est ça, au début, c'est vraiment une conférence, c'est-à-dire qu'on arrive, on a un bureau, des livres sur le bureau et une conférencière qui, avec ses lunettes, nous fait une conférence, comme on a l'habitude à l'ENS d'avoir des conférences.
C'est ça.
Et puis après, Lily Boom, donc cette conférencière, elle change.
Elle explore des espaces qu'elle connaît moins. Et comme actrice aussi, moi j'explore beaucoup d'autres formes de théâtralité.
Parce qu'avec le masque, c'est tout un autre univers qui s'ouvre, celui de l'inconscient, du rêve, de l'irréel. Donc il y a vraiment un travail au niveau de la scénographie sur l'espace.
On a essayé de construire beaucoup le spectacle comme un espace très reconnaissable, avec tous les codes qui sont présents, le tableau blanc, les livres, les stylos. Et voir comment est-ce que de tous ces éléments-là, si on les modifiait juste spatialement, pouvaient nous faire basculer dans un espace onirique. Comme si ce masque était l'irruption d'une animalité et nous permettait d'aller dans des endroits auxquels on ne s'attend pas.
Alors justement, cette plongée dans l'espace onirique, dans l'inconnu, il y a donc un travail sur l'espace, mais il y a aussi un travail sur le son. Alors ça, c'est la partie de Hugo Kostreva.
Donc c'est une création sonore originale. Il a fait tout un travail pour reprendre des bruits réels, donc par exemple le bruit des livres, le bruit du papier, aussi en comment reprendre les sons qui sont présents dans n'importe quelle salle, tous les bourdonnements, et les amplifier, et voir comment en modifiant ces sons-là, qui à la base sont des sons extrêmement réalistes, on pouvait également basculer dans quelque chose d'autre.
Et au fur et à mesure, c'est comme si on pénétrait un peu dans le cerveau de Lily Boom. C'est pour ça qu'on parle d'inconscient. Et ces sons, vu qu'ils sont comme une amplification des sons réels, donnent peut-être cette impression d'être à l'intérieur d'un cerveau.
Enfin, avec le masque, c'est le théâtre même que vous interrogez. Progressivement, vous vous éloignez du texte, écrit, répété, celui de la conférence, très rationnel. Et vous laissez place à l'improvisation, théâtrale bien sûr, mais pas seulement. C'est vraiment une pluridisciplinarité que vous mettez en place. Et ça, c'est vraiment une performance aussi pour la comédienne que vous êtes.
Qu'est-ce que représente la danse par rapport à l'identité? Qu'est-ce que représente le yoga? Qu'est-ce que représente le théâtre? En essayant de confronter vraiment ces différentes disciplines dans leur singularité. Et effectivement, c'est très, très particulier à jouer parce que je passe d'un style de jeu à l'autre en permanence. Et en même temps, c'est le processus de démascation ou...
Et du coup, même vous jouez sur un fil, puisque l'improvisation, ce n'est pas, par définition, écrit, ce n'est pas répété. Donc il y a une part de danger aussi. Vous mettez en tant qu'actrice en danger.
L'improvisation, c'est à la base du travail, puisque il n'y a rien qui a été préécrit, et tout se fait au plateau. Et on travaille encore maintenant, là où on est en reprise du spectacle, puisqu'on l'a déjà joué, qu'il est créé, mais qu'on a envie de changer des choses. La dramaturgie se fait à deux. Avec Ariane, et j'essaye des choses au plateau, on en parle, on revient et on écrit en permanence comme ça.
Alors démascation, dénudation, mais aussi déthéâtralisation en quelque sorte, puisque vous jouez avec la portée et la fonction même du théâtre. Avec Diderot, on sait très bien que l'acteur, il passe son temps à, je cite, construire son personnage, c'est-à-dire à jouer, à créer des rôles, à mettre des masques, qu'il ne peut donc pas être sincère. Et vous dites, ben justement ici, on prend le parti inverse. On suit Michel Foucault qui, dans Les Hétérotopies, disait « Se masquer, c'est faire entrer le corps en communication avec des pouvoirs secrets et des forces invisibles. Le théâtre, ce serait donc un lieu pour être ?»
C'est justement ce qu'on essaye d'explorer là, puisque comme si l'endroit où la représentation est à la fois le plus là et où on pourrait s'en extraire le plus, ce serait un plateau de théâtre, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le processus du spectacle.
Enfin, en fait, tout était dans le titre « Identité, pirandellisme et tarahuma ». Alors « Identité », c'est à la fois le point de départ, de la pièce, avec la conférence de Lily Boom, sur cette notion même, et en même temps, c'est le sens profond, on le comprend bien à vous écouter, de cette représentation, avec l'expérience de démascation, de dénudation et de déthéâtralisation que vous entreprenez. Pirandellisme, c'est en quelque sorte la philosophie, la conception théâtrale qui anime ce spectacle, puisque le terme en effet a été défini pour la première fois par le critique et théoricien italien Adriano Tilger en 1922, et renvoie au théâtre de Luigi Pirandello. Et ça renvoie donc à cette façon de créer des situations théâtrales dont les tenants et les aboutissants échappent au spectateur et le propulsent dans une sorte de no man's land entre le certain et l'incertain, entre la fiction et le réel. C'est ce à quoi vous allez être confrontés, vous les auditeurs, j'espère, spectateurs, le 20 septembre. Enfin, Tarahumara, c'est ce peuple du nord du Mexique qui rappelle le moyen de cette expérience théâtrale, de cette plongée identitaire, c'est-à-dire le masque. Bref, tout était dans le titre, donc. Mais surtout, tout sera sur scène le jeudi 20 septembre dans le cadre des Cités Muses. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et pour conclure, je citerai ces extraits de passages d'Henri Michaud que vous mettez en exergue de votre présentation du spectacle. Visage de l'enfance, des peurs de l'enfance dont on a perdu plus la trame et l'objet que le souvenir. Visage qui ne croit pas que tout a été réglé par le passage à l'âge adulte, qui craignent encore l'affreux retour. Foule infinie, notre clan, ce n'est pas dans la glace qu'il faut se considérer. Homme, regardez-vous dans le papier.
Merci beaucoup.
Merci.
Nous arrivons au terme de cette première émission spéciale, programmation des Cités Muses, pour découvrir toujours plus les coulisses du festival avec Lambert de Warumé et Corentin Roquebert dans scène, pour écouter l'interview des troupes des pièces Les Âmes Rouges jouées le lundi 24 septembre et de la troupe du triptyque autour de Don Juan jouée les vendredis 21, samedi 22 et mercredi 26 septembre. Eh bien, je vous invite à écouter la deuxième émission spéciale mise en ligne en même temps que celle-ci depuis mercredi 12 septembre. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires sur la page de l'émission ou sur notre Facebook en spectateur sur Transistor. Cette semaine, également sur les ondes transistoriennes, un numéro d'Anormal dans lequel Audrillon, responsable communication de l'ENS, évoque notamment la fête de l'ENS pour les 10 ans de la fondation à Lyon de l'École Normale. Je vous laisse donc en bonne compagnie, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au cinéma, bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.